c'est Claude Julien qui vous parle. Je suis en compagnie de Francine Robert. Francine, suite à ce que vous venez d'expliquer, spontanément, je vous demande, mais comment, si vous dites qu'il l'a réintégré à la communauté en le touchant comme ça, comment se fait-il que Marc se dépêche de dire qu'il l'a rudoyé? Hein? En le rudoyant, Jésus le chassa aussitôt. Mm-hmm. À première vue, il y a une contradiction.
Oui, et c'est une contradiction dans les émotions même de Jésus. Hein. Alors, ça a fait couler beaucoup d'encre, il y a beaucoup, beaucoup de commentaires. Le commentaire qui me rejoint le plus, c'est celui d'un jésuite du Centre Sèvres à Paris qui s'appelle le père Lamarche, qui disait comment ce récit montre des tensions à l'intérieur de Jésus. Un mouvement positif de compassion et un mouvement négatif, ou en tout cas rude, un mouvement rude, disons, le rudoyant, le chassant. Il le chasse pas vers n'importe où, il dit pas « va-t'en, je veux plus te voir ». Il l'envoie avec une certaine véhémence, une brusquerie, il l'envoie vers les prêtres. Hein. « Va te montrer aux prêtres et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, ils auront là un témoignage ». Alors, je vous disais tout à l'heure, le fait que Jésus le touche, cet homme, ça le réintègre dans des relations interpersonnelles. Mais, il y a un mais, ça ne le réintègre pas dans la communauté humaine.
C'est ça, ça suffit pas. C'est pour ça qu'il doit aller au temple.
Oui, ça doit être reconnu par l'institution. Jésus, lui, le reconnaît. Mais pour que ça fonctionne, selon la loi de Moïse, et pour que cet homme soit vraiment réintégré dans le réseau des relations sociales, dans le monde réel, on peut dire, ça doit passer par le clergé.
Par un officiel.
Ça devait passer par le système.
Hein, par le système, c'est ça. Se montrer aux prêtres et offrir ce que Moïse a prescrit.
C'est ça, voilà. Il faut donc satisfaire. La guérison physique et visible ne suffit pas. Mais elle doit être quand même...
Il faut une confirmation.
Confirmée, entérinée, signée en 3 exemplaires. Feuille rose, feuille jaune, feuille verte.
C'est ça.
Sinon... t'es pas réintégré. Alors, comment dire, c'est une des manières de le comprendre, cet agacement de Jésus qui pourrait avoir envie de dire, garde, je l'ai guéri, ça devrait suffire, mais non, il faut encore qu'il aille se faire approuver par le prêtre. Bon, ça, c'est plusieurs commentateurs vont le dire comme ça. D'autres, dont le père Lamarche dont je parlais, sont d'un autre avis et ça me rejoint beaucoup, c'est que nous avons là le premier récit où Jésus est mis en scène avec la loi de Moïse. Quand Jésus a des problèmes avec la loi, on pense toujours que c'est quand Jésus a des problèmes avec les pharisiens et les scribes, comme si ça venait jamais de lui les problèmes. Mais ici, il n'y a pas de pharisiens, il n'y a pas de scribes. Et pourtant, on a des émotions étranges chez Jésus qui va d'un bord puis ensuite de l'autre. Hein. Il transgresse la loi pour guérir le lépreux et le toucher.
Il obéit à la loi.
C'est ça.
Il demande au lépreux, autrement dit, lui-même, Jésus a désobéi à la loi.
Oui.
Et il dit au lépreux de satisfaire le précepte.
Et c'est un peu comme si c'était à son corps défendant.
Là, il n'y a aucun pharisien qui est dans le décor.
Non, d'accord. Voilà. Alors, ce que le père Lamarche dit, c'est, nous avons là le premier récit où la loi de Moïse est en jeu. Jésus, jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'il a fait dans l'évangile de Marc? Il ne faut pas oublier qu'un évangile est une catéchèse organisée. Il place les récits dans l'ordre qu'il choisit. Hein? Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a proclamé la bonne nouvelle du règne de Dieu. Il a guéri un possédé dans la synagogue. Tout le monde est resté bouche bée. Voilà un enseignement nouveau plein d'autorité. Il a guéri la belle-mère de Pierre. Il a guéri plein de gens aux portes de la ville. L'unanimité se fait. Sa renommée se répand. Tout le monde est content. La bonne nouvelle est proclamée. Puis Jésus dit, bon, ben maintenant, je m'en vais ailleurs faire la même chose, proclamer la bonne nouvelle. Ça va bien. Vous voyez, quelqu'un qui veut annoncer que Dieu aime, qui propose le salut, puis qui est là à guérir des gens, c'est parfait, il n'y en a pas de problème.
C'est ça, c'est la condition idéale.
Oui, voilà. Et tout à coup arrive ce récit où Jésus est capable de guérir, il n'y a pas de problème, sa capacité de guérir n'est pas du tout mise en cause, mais c'est la loi de Moïse qui vient se heurter à son désir de sauver, là. Ça l'a mis dans une position embêtante, il a touché un lépreux, ça l'a troublé profondément de voir cet homme marginalisé, malade, Voyez, alors c'est comme si Jésus, pour la première fois, est pris dans cette position inconfortable où la loi donnée par Dieu vient en opposition au salut donné par Dieu. Vous voyez, c'est le même Dieu qui l'envoie proclamer une bonne nouvelle, mais agissant ainsi, il se trouve en opposition avec la loi que ce Dieu-là a donnée aussi. On dit la loi de Moïse, mais c'est la loi donnée par Dieu à Moïse. Donc, c'est cette tension-là qui est travaillée là, dans le commentaire du Père Lamarche, cette tension interne. Il n'y a pas de position confortable dans cette histoire-là. Quoi qu'il fasse, ça le coince. Vous voyez? Et bien sûr, ça va se résorber à la suite. On va voir que finalement, Jésus va en prendre son parti. Ça va arriver régulièrement qu'il va devoir s'opposer à la loi pour manifester la bonne nouvelle. Il va le faire.
Quand vous dites par la suite, c'est dans l'Évangile.
Oui,
là,
c'est ça.
Pas dans notre récit d'ici, nécessairement.
Non, vous avez raison de le préciser. Et dans la suite de sa vie aussi, je dirais, le Jésus historique, il s'est fait à cet inconfort. Il va le pratiquer de plus en plus. Mais c'est comme si Marc soigne bien la première fois où cette contradiction arrive. Donc, des émotions qui reflèteraient une sorte de tension, d'ambiguïté chez Jésus, de tiraillement entre deux images de Dieu. Bien sûr, heureusement, c'est le Dieu de la bonne nouvelle du salut qui va l'emporter.
Je vois que la première parole que Jésus lui dit après l'avoir guéri, « Garde-toi de rien dire à personne. » Mais on va voir que tout de suite après, l'homme, lui, il n'écoutera pas. Il va désobéir, entre guillemets, parce que lui, là, il va proclamer là, ce qui lui est arrivé.
Oui, c'est un autre volet du récit. C'est une autre tension étrange dans ce récit. Bon, quelles que soient les raisons que Jésus peut avoir de donner des consignes de silence, je serais...
Mais en même temps, je sais qu'il veut pas être trop populaire. Il y a cette dimension-là.
Le problème de la popularité, je crois que oui. Et c'est assez traditionnel comme commentaire et bien fondé de se rappeler que dans Marc, donc Jésus donne souvent des consignes de silence. On appelle ça comme ça, des consignes de silence. Il en donne assez souvent et on voit bien que c'est pour atténuer une certaine popularité qui devient envahissante, de sorte que Jésus finirait par être associé à un faiseur de miracles. Hein. On le voyait déjà dimanche dernier. Lorsque Jésus, après avoir guéri beaucoup de malades et de possédés à la ville ou à la porte de la ville ou de la maison, Jésus se retire dans un lieu désert et Pierre part à sa recherche et dit « Tout le monde te cherche, hein? Donc viens nous en faire d'autres, hein? Tu es là, tu es populaire. » Et Jésus va répondre « Non, allons plutôt ailleurs parce qu'il faut que j'aille aussi proclamer la bonne nouvelle. » Donc c'est sûr qu'il y a une popularité qui peut être encombrante. Et c'est comme ça qu'on justifie habituellement les consignes de silence. Le commentaire classique, c'est celui de la popularité
c'est
dont Jésus
veut, c'est
se méfie.
Il ne veut pas être, et c'est normal, il n'est pas un faiseur de miracles, un guérisseur, et ça étoufferait le message.
C'est la signification. C'est parce que les gens vont rester sur le merveilleux et ne vont pas à la signification. Or, la signification de la guérison du lépreux, elle est dans la signification du geste de Jésus touchant le lépreux. Il réagit à cet homme marginalisé par la loi, tout comme il va manger avec des pécheurs plus loin. Il va aller chez Lévi, là, on est tout juste deux récits après, là. Donc, Jésus va manger avec des pécheurs, on va le lui reprocher. C'est la même chose que toucher le lépreux. C'est-à-dire que face au système d'exclusion, finalement, Jésus va plutôt procéder par inclusion. Donc, la signification de la guérison, la signification des guérisons, c'est un, je vous annonce que Dieu sauve et puis j'essaie de vous le montrer comme je peux en vous guérissant. Deux, je vous annonce que Dieu ne vous exclut pas et j'essaie de vous le montrer en vous touchant, en vous fréquentant, en mangeant avec vous, en m'approchant de vous. Je vous dis, Dieu se fait proche de vous. Donc, il fonctionne par inclusion, vous voyez. Si les gens restent au merveilleux, par exemple, ce qui nous frappe, nous, c'est que le lépreux est guéri. On n'aura jamais comme titre « Récit de Jésus touchant un lépreux ». C'est curieux, non?
Ouais, c'est vrai.
Pourtant, c'est déjà une guérison. Ouais. C'est la guérison sociale du lépreux qui se fait dans ce geste.
On pourrait dire, l'intitulé « Ému, Jésus touche le lépreux ».
Oui, voilà, ouais. Au lieu de... Mais on est frappé par le merveilleux, il guérit, moi je peux pas guérir.
Voilà, donc, la guérison, on l'intitule « La guérison du lépreux ».
C'est ça, et donc ça montre qu'on a tendance davantage à s'attarder au merveilleux, à l'aspect miraculeux. Et la foi fondée sur le merveilleux, dans les quatre évangiles, c'est source de problèmes. Ça, c'est pas typique de Marc. Dans les quatre évangiles, on s'en méfie, c'est dans Jean que c'est le plus clair. Jean dénonce les personnes qui voient les miracles, mais qui ne voient pas que c'est des signes d'autres choses.
Très juste. Et dans Jean, justement, il y a des dialogues qui suivent chaque événement, là, comme par exemple la multiplication des pains. Vous avez un long dialogue avec les Juifs. On voit que Jean a ce souci de faire passer du signe à la chose signifiée. Là,
c'est ça, exactement. Et sinon, les gens voient le merveilleux, mais ils ne voient pas que ça signifie autre chose. Pour les guérisons de Jésus, je dirais, et ici pour la guérison du lépreux, dont la signification porte aussi bien dans le geste de Jésus de toucher, ce qui nous renvoie à sa pratique d'inclusion. Par contre, la consigne de silence, ça peut très bien refléter la crainte du Jésus historique, donc d'une popularité malvenue, mais c'est un outil aussi dans l'évangile de Marc. La consigne de silence n'est pas toujours donnée dans des circonstances où elle pourrait être respectée. Hein, c'est peu vraisemblable que le lépreux continue de rester dans sa marge à l'écart des autres, comme s'il n'avait pas été guéri. Là, va bien falloir qu'il dise qu'il est guéri, et on voit pas pourquoi il ne le dirait pas avec joie et soulagement, puisqu'il réintègre la communauté humaine. Alors, c'est clair que c'est utilisé par Marc. Là, c'est pas la vraisemblance de la consigne de silence qui joue, mais c'est utilisé pour autre chose, pour nous mettre en garde nous-mêmes, je dirais, face à la fascination du merveilleux, hein, pour mettre en garde le lecteur chrétien sur sa propre fascination devant Jésus qui guérit.
Francine, l'homme qui se fait dire, il faut pas qu'il parle, garde-toi de rien dire à personne, va agir d'une façon tout à fait contraire. Et je lis, mais une fois parti, il se mit à proclamer bien haut et à répandre la nouvelle si bien que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais qu'il restait dehors en des endroits déserts, et l'on venait à lui de toutes parts.
Eh oui. Alors, ce lépreux qui n'obéissait pas à la loi en venant se présenter à Jésus, n'obéit pas à Jésus. C'est un homme indocile. Il a un ordre clair, pourtant, de Jésus. Et il ne le suit pas. Je rappelle ce que je disais à propos de la christologie dans Marc. Marc mise à fond sur l'incarnation. Et un être humain, c'est quelqu'un qui n'est pas en contrôle de tout, qui ne contrôle pas tout ce qui se passe autour de lui. Donc, un Jésus qui peut finalement ne pas être toujours obéi, qui a suffisamment de force de Dieu, on pourrait dire, en lui, de force de bien pour guérir un homme, mais c'est pas une force qui devient une autorité sur cet homme pour l'obliger ou à le contraindre à quoi que ce soit. C'est une force bienfaisante et non pas, je dirais,
une force d'autorité contraignante et contrôlante.
Ouais, c'est ça. Le récit marque bien l'écart entre ce que Jésus veut et la conduite de l'homme. Ce qui est d'autant plus intéressant que le lépreux a obtenu, lui, ce qu'il voulait. Il a dit à Jésus, « Si tu veux, tu peux me purifier. » Et maintenant, Jésus lui dit indirectement, « Ce que je veux, c'est que tu n'en parles pas. »
Et là, il ne l'écoute pas. «
Le lépreux, ce que tu veux, tu sais.
Ouais. »
Donc, c'est intéressant, cet évangile de Marc, qui n'a pas de gêne à présenter un Jésus qui ne contrôle pas tout. On l'a dit déjà pour des émotions. On l'a redit en montrant que Jésus, non seulement il a des émotions, mais il a des émotions contradictoires. Et ici, maintenant, il ne contrôle pas non plus ceux à qui il donne des ordres. C'est tellement typique de la christologie de Marc que, je le rappelle, dans ce récit que Matthieu et Luc vont reprendre, la finale de la désobéissance de l'homme va être coupée, parce que ça ne correspond pas bien à leur image de Dieu. Alors, ça a un effet, une sorte de contre-coup sur Jésus, le fait que le lépreux est trop bavard. C'est que Jésus, nous dit le récit, ne pouvait plus entrer dans les villes. Hein. Il était obligé d'éviter les lieux habités. Bon, on sait pertinemment que la page suivante de l'Évangile, Jésus va se retrouver en ville. Bon, même si les gens savent pas de mémoire que c'est à Capharnaüm, ça va être à Capharnaüm la semaine prochaine. C'est clair que ça ne l'a pas empêché à tout jamais. Mais cette manière de dire les choses dans le récit, je vous rappelle, un auteur choisit sa manière de raconter. Il faut jamais oublier qu'on a un auteur entre nous et l'événement. Donc, cette manière-là de raconter, je crois bien, est un clin d'œil très clair vers la situation de départ du lépreux. Qui ne pouvait pas entrer dans les villes au début du récit? C'est le lépreux, c'est pas Jésus.
Ah, c'est intéressant.
C'est lui qui était exclu.
C'est intéressant.
Mais oui.
Et là, suite à l'événement, Jésus
est présenté comme
exclu.
Exclu à son tour, finalement.
Ah, c'est intéressant.
Comme si c'est lui qui prenait la place du lépreux, sans le vouloir, d'une certaine façon. Et c'est une manière de dire que pour annoncer la bonne nouvelle de Dieu, Jésus, finalement, se retrouve à notre place, à notre place à nous qui avons besoin de cette bonne nouvelle. Vous voyez, on pourrait dire dans Isaïe, je ne sais pas, 53, je crois bien. Il a pris sur lui...
Oui, Isaïe, chapitre 53.
Nos infirmités, nos maladies.
Faire la fin du... Oui, c'est ça.
D'accord.
Ouais, le quatrième poème du serviteur souffrant. Mm-hmm. Il a pris sur lui nos maladies.
Nos maladies, nos infirmités. Ouais. C'est cité, d'ailleurs, dans Matthieu, ce texte. Alors, vous voyez, c'est comme si, finalement, l'action de Jésus auprès du malade...
rebondit sur lui,
et c'est lui qui se retrouve marginalisé. Donc, par contre, le récit ne s'arrête pas sur cette image pessimiste, bien sûr. La suite va bien montrer qu'il n'y a rien qui peut arrêter, finalement, la diffusion de la bonne nouvelle. Même si Jésus doit rester dans les lieux déserts, il va attirer plein de gens pour qui, justement, ce visage de Dieu apparaît comme salutaire, apparaît comme une bonne nouvelle. Mais c'est quand même une finale en tension. Là encore, en termes narratifs, ce récit nous laisse comme une patte en l'air avec Jésus, qui est présenté comme ne pouvant pas faire exactement ce qu'il veut. Il ne pouvait plus entrer dans les villes. Donc, ça annonce cette finale en tension. Tout le récit, de fait, annonce la suite dans l'Évangile de Marc. Et on le voit bien comment ça va aboutir, le conflit entre Jésus et la loi. Ça va cesser d'être un conflit à l'intérieur de lui.
Oui, ça parce va qu'il devenir... va rencontrer des pharisiens,
c'est
je pense, dès dimanche après. Là,
tout à fait, à Capharnaüm.
À Capharnaüm, la guérison du paralysé.
Oui.
Là, les pharisiens sont présents.
Et vont reprocher à Jésus, vont reprocher en silence, dans leur cœur, on va dire, raisonner en eux-mêmes, d'avoir remis les péchés, c'est-à-dire d'en prendre à son aise avec la loi. Vous voyez? Et donc, l'espèce de conflit à l'intérieur de Jésus n'en sera plus un. Il va devenir un conflit entre Jésus, qui a fait son choix. Voilà, quand il faut sauver, tant pis pour la loi, même si c'est la loi de Dieu, parce que c'est sauvé au nom de ce même Dieu, son choix est fait, désormais. Et le conflit va se concrétiser plutôt à l'extérieur de Jésus, vers lui et les pharisiens et scribes. Et on aura dans Marc ce récit dont vous nous parlez, le paralysé, est le premier d'une série de 5 que l'on appelle des controverses. On a 5 controverses à la suite. Marc en enchaîne 5 de suite.
Ce que vous me dites, c'est qu'il y a le miracle du paralysé,
oui,
là, qui se fait relever. Et après, ça va être suivi de 5 controverses après ce miracle.
Le paralysé est la première des 5. Ça va être suivi donc de 4 autres.
Okay.
Il y aura, les gens les connaissent, le repas chez Lévi, le publicain. Donc, c'est pas une guérison, mais c'est la même chose que toucher le lépreux. C'est manger avec des pécheurs, et les pharisiens vont venir critiquer. Il y aura ensuite les pharisiens qui vont critiquer parce que Jésus ne jeûne pas. Il y aura ensuite les épis arrachés le jour du sabbat. Et la 5e, ce sera la guérison d'un homme à la main paralysée le jour du sabbat. Et là encore, Jésus va être en colère. Parce que les gens vont être empêchés d'admettre qu'il doit guérir cet homme-là à cause de la loi du sabbat, ça les empêche d'admettre. Et on voit bien que sa colère est liée au même sujet, vous voyez. La colère, en passant, elle va être enlevée dans le récit de Matthieu, là encore. C'est typique de Marc, ça. Donc, on voit que cette tension, finalement, elle va se résoudre et elle va devenir un conflit mortifère pour Jésus, mais au moins, c'est plus un conflit intérieur. Ça va devenir un conflit mortifère parce que dès la fin de ce récit de l'homme à la main paralysée dont je viens juste de parler, les adversaires vont sortir et vont chercher un moyen de le faire périr. On a l'annonce de la mort de Jésus dès le début du chapitre 3 dans Marc. Il n'a pas fait grand-chose encore. Et déjà, il a confiné des bouches sur la décision de le faire périr. Et on voit que dans ces 5 controverses, qui incluent le repas avec le pécheur, que c'est pas parce que Jésus guérit des gens, mais parce qu'il, finalement, il prend des positions qui, lorsqu'il s'agit de sauver contre la loi, d'inclure contre la loi, Jésus fait des choix qui inquiètent les autorités religieuses de l'époque.
Vous venez d'écouter Francine Robert, professeure à l'Institut de pastorale des Dominicains à Montréal. C'est Claude Julien qui vous parle. À la technique, Daniel Fortin. Je vous souhaite une bonne fin de semaine à notre antenne et vous donne rendez-vous samedi prochain à la même heure.